Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Et c'est l'heure de la chronique constitutionnelle. Et cette semaine, c'est Guillaume Rousseau qui est là. Bonjour, Guillaume Rousseau.
Bonjour.
Professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et donc accessoirement notre chroniqueur constitutionnel cette semaine. Guillaume, je t'ai passé un jugement, je t'ai envoyé un jugement pour analyse parce que c'est un jugement assez particulier. Il y a une personne qui s'identifie comme ni homme ni femme qui est parvenue en Ontario à se faire payer une vaginoplastie qui est assez spéciale, là, expérimentale, au cours de laquelle il peut conserver son pénis. Donc, tu as lu ça avec intérêt parce que y a des questions de droit qui sont soulevées. Évidemment, ça s'est passé devant une cour en Ontario.
Oui, effectivement. Donc, plus précisément, c'est une personne non-binaire, mais à dominante féminine. Donc là, okay. on connaissait les hommes et les femmes. Ensuite, on a connu les non-binaires. Mais là, semble-t-il que dans les non-binaires, hein, donc ce serait un spectre. Le genre serait un spectre. Et là, il y aurait des non-binaires un peu plus femmes, un peu plus hommes. Ici, ce serait une personne non-binaire un peu plus femme, d'où le fait que cette personne-là souhaite une vaginoplastie, donc souhaite une opération chirurgicale pour avoir un vagin, mais en même temps souhaite garder son pénis.
Ouais.
Et là, ce qui est particulier, c'est que normalement, lorsqu'il y a une vaginoplastie, donc l'opération est faite et en même temps qu'on enlève le pénis et en quelque part, on prend la peau du pénis pour en faire un vagin. Comprends bien, évidemment, je suis pas chirurgien, là, mais c'est assez bien expliqué dans le jugement, donc je pense pas faire d'erreur. Et donc, normalement, ça se fait comme ça et ça, c'est couvert par l'équivalent de la RAMQ en Ontario, donc l'assurance maladie. Mais là, ici, ce qui est plus commun, c'est cette opération-là, donc la vaginoplastie, donc créer le vagin avec la peau de pénis, en enlevant le pénis. Mais là, puisque la personne veut garder les deux organes génitaux, ça crée une question de droit qui s'était pas posée avant dans le droit ontarien.
Exactement. Donc, je t'ai lancé le défi d'analyser ça. Sur quoi cette personne-là, qui est nommée KS dans le jugement, elle se base, sur quel élément du droit elle se base pour dire que c'est l'État qui doit lui payer cette chirurgie?
Donc, c'est vraiment la loi sur l'assurance maladie en Ontario, le Health Insurance Act. Donc, c'est aussi bête que ça. Ben, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est une annexe avec un schedules of benefits là, qu'on pourrait traduire par un tableau des prestations couvertes par l'assurance maladie, là, si on essaie une traduction là, pas trop littérale. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de prendre la loi, puis la liste, puis les annexes, puis les règlements, puis là, dire, bon, ben dans ce qui est couvert par l'assurance maladie, est-ce que une vaginoplastie sans pénectomie,
ouais,
donc le fait d'ajouter un vagin sans enlever le pénis, est-ce que ça c'est couvert?
Okay.
Et là, il y a eu des différentes procédures, différentes décisions, mais à un moment donné, il y a une commission qui a refusé à KS, à la personne non binaire, de couvrir par l'assurance maladie la vaginoplastie sans pénectomie. Parce que généralement c'est vaginoplastie avec pénectomie et la règle dans le fond la règle c'est que c'est couvert la vaginoplastie, mais là il y a une commission qui dit ben un instant, ce qui est couvert c'est la vaginoplastie normale, donc celle avec pénectomie. Mais là semble-t-il que c'est elle, là, c'est précisant de votre page, faut plutôt dire elle, semble-t-il. Effectivement. Et là, donc, la personne non-binaire, elle souhaite avoir la vaginoplastie sans pénectomie. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un peu une question de charte des droits. Il y a un argument de charte des droits.
C'est ça, j'étais curieux de savoir où la charte des droits allait intervenir à un moment donné, parce que c'est toujours ça, c'est souvent ça, en tout cas au Canada, dans ces questions-là.
Effectivement, mais à la base, c'est essentiellement un jugement d'interprétation des lois. Donc, si on a des étudiants en droit qui nous écoutent, là, puis vous êtes en train de faire votre cours d'interprétation des lois, allez lire ça parce que c'est vraiment un beau cas. Donc, en fait, c'est vraiment d'analyser une phrase. Donc, c'est une virgule à la fin qui fait la différence. Hein.
Donc, ah oui?
Et c'est même pas une façon de parler. Là. C'est vraiment la présence d'une virgule qui change tout. J'y arriverai tantôt. Mais c'est vraiment un cas, comme on enseigne dans les facs de droit, d'analyse de la loi. Donc, il faut juste lire la loi. Donc, il s'agit pas de se perdre dans la jurisprudence, quoi qu'évidemment, il y en a un peu, avec des grands principes, un peu limites philosophiques. Il y en a un petit peu, mais essentiellement, à la base, il s'agit de lire la loi.
Okay.
Donc, il y a une série d'opérations chirurgicales qui sont couvertes par l'assurance maladie. puis il y en a d'autres qui sont pas couverts, comme dans n'importe quel régime d'assurance
maladie. Comme par exemple, une femme peut se refaire faire les seins après un accident, après...
mais pas à des pains purement esthétiques, par exemple.
Et ça, exactement.
En général. Voilà, vous avez tout compris.
Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce cas de figure-là, puis que le problème va se poser, pas le problème, mais en tout cas la question va se poser ici au Québec à un moment donné.
Oui, effectivement. C'est pour ça que c'est bon de regarder ce qui se fait en Ontario. Donc, l'idée, c'est d'interpréter l'annexe à la loi, le document qui énumère les opérations chirurgicales qui sont couvertes. Donc, c'est une question d'interprétation des lois. Puis là, la Cour nous rappelle comment on fait pour interpréter la loi au Canada. Essentiellement, trois étapes. D'abord, on regarde le sens des mots. Okay. Le sens ordinaire des mots, on lit la loi, puis parfois c'est extrêmement clair. Donc si c'est extrêmement clair, on peut s'arrêter là, on applique, le juge a compris ce que ça voulait dire. Bon, il y a d'autres théories d'interprétation qui vont vous dire c'est jamais complètement clair, faut toujours tenir compte du contexte, mais bon, en théorie, et c'est comme ça que c'est présenté dans le jugement, on peut s'en tenir aux mots ordinaires, au sens ordinaire des mots. Deuxième étape, on regarde le contexte de la loi, l'intention du législateur, l'objectif, le contexte un petit peu plus large au niveau des normes. Et troisième étape, au besoin, si c'est pas clair, on peut aller voir les valeurs de la Charte canadienne. Donc, si, après avoir lu le texte, dans son contexte, à la lumière de l'intention du législateur, il y a encore deux interprétations possibles, mais on va opter pour l'interprétation qui va davantage dans le sens des valeurs de la Charte canadienne. Donc, il s'agit pas de dire que la loi est contraire ou pas à la Constitution, à la Charte, donc inconstitutionnelle. C'est pas ça. C'est la Charte comme outil d'interprétation d'une loi ordinaire dont la constitutionnalité n'est pas contesté. Fait que c'est un volet de l'activité autour des chartes, de la Charte canadienne en particulier, qu'on connaît moins, puis qui est intéressant. Donc, c'est vraiment les trois étapes qui sont appliquées ici.
Donc, les juges ont réussi à ajouter cette vaginoplastie-là sans pénectomie à la liste, dans le fond.
Ben, en fait, la façon qu'ils présentent leur raisonnement, c'est qu'ils ne font qu'appliquer la loi. Puis honnêtement, c'est plutôt convaincant. Donc je suis plutôt convaincu. Puis comme je dis, moi, j'ai pas d'opinion, je connais pas assez le dossier des transgenres et tout pour avoir une opinion morale, philosophique sur la question, mais strictement en termes de droit, de technique d'interprétation des lois, c'est plutôt bien argumenté. Dans le fond, l'idée, c'est que, et c'est là pour ça que je vous dis qu'il y a une virgule, donc la première étape, c'est de regarder les mots, puis là, c'est écrit parmi ce qui est couvert par l'assurance maladie en Ontario, c'est donc vaginoplastie, virgule, pénectomie. Donc, c'est comme si les deux sont couverts, mais il y a une virgule entre les deux, donc c'est comme un ou l'autre. C'est pas nécessairement que si vous avez une vaginoplastie, ça veut dire que nécessairement ça vous prend aussi une pénectomie puisqu'il y a une virgule entre les deux. Okay. Donc déjà en partant, il y a littéralement une virgule qui fait la différence. Donc en partant, juste le sens des mots, vaginoplastie, il y a trois façons de la faire, là, ce qu'on comprend, donc dont celle qui consiste à enlever le pénis, le transformer en vagin avec la peau, mais il y a d'autres façons, là, il n'y a pas trop de détails, là, mais on n'est pas obligé, autrement dit, de faire ça, il y a d'autres façons de procéder à une vaginoplastie, donc puisque la loi dit juste vaginoplastie, ben c'est pas nécessairement une vaginoplastie forcément avec pénectomie. Donc ça, c'est l'argument de texte.
OK, et c'est comme ça qu'ils en viennent à forcer, au fond, l'État à payer pour cette opération particulière.
Ouais, la deuxième étape du test, c'est que là, ils vont voir que dans la loi, puis dans le droit ontarien, il y a un renvoi, mais il y a une volonté du législateur d'incorporer les règles d'une association internationale en matière de soins pour les personnes transgenres. Et une des recommandations de ces grands standards internationaux, c'est vraiment d'avoir des traitements individualisés. Donc, c'est pas genre tous les transgenres, devraient avoir tel soin, tel autre soin. C'est de dire vraiment c'est individualisé. Puis là, donc, dans le cas de cette personne-là, elle est non-binaire, mais dominante féminine, ben là, donc pas complètement féminine. Bon, le contexte particulier de la personne fait en sorte qu'il faut effectivement, semble-t-il, lui créer un vagin, mais sans lui retirer le pénis. Donc, parce que c'est précis, cette personne-là, c'est ce qui répond à ses besoins très, très particuliers. Et on comprend donc aussi, par ailleurs, dans ces standards internationaux-là, on n'écarte pas la possibilité qu'il puisse y avoir une telle chose qu'une vaginoplastie sans pénectomie. Alors que même si habituellement, ça va ensemble. Et là, troisième étape,
d'hermaphrodite, mais c'est qui existe dans la nature, c'est des cas extrêmement rares, mais c'est ça.
Ouais. Ouais, et là c'est créé par la c'est au Texas, c'est tout ça, c'est l'autre question aussi parce que ça se donne même pas en Ontario tellement que c'est particulier comme opération.
Il faut aller à l'étranger en plus.
Il fallait aller au Texas pour là ensuite dans est-ce que l'Ontario a prévu rembourser ça, donc il y a cette règle, il y a cette question là qui se pose aussi. Mais déjà avec le texte, On a pas mal tranché. Ensuite, le contexte confirme. Puis finalement, tout ça est confirmé à la troisième étape en disant que, ben, en plus, en faisant cette interprétation-là qui permet le remboursement de la vaginoplastie sans pénectomie, ben, ça respecte le droit à la sécurité de la personne. Ah. Et là, on va chercher dans le droit à l'article 7 de la Charte canadienne. Donc, liberté, vie, sécurité. Dans l'affaire Carter, je pense qu'on avait dit que, bon, pour les prostituées et tout, là. Donc là, on fait un lien avec le fait qu'on veut sa sécurité, c'est pour sa santé. Puis ensuite, évidemment, l'article 15, le droit à l'égalité. Okay. On veut pas discriminer une personne transgenre. Donc, les trois étapes mènent à la même conclusion et le tribunal juge que ça doit être remboursé.
J'étais sûr qu'il y avait de la charte là-dedans. Mais c'est parfait. Ouais. Deuxième sujet, Guillaume. En étude de crédit, le ministre Jolin Barrette, le ministre de la Justice, a dit que c'était au fond, s'il y avait des délais en justice, c'était en grande partie la faute des juges qui siègent moins longtemps, du moins à la Cour du Québec. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, on se souvient de son des tensions qu'il y a eu entre le ministre de la Justice et l'ancienne juge en chef de la Cour du Québec, parce qu'elle a quitté depuis, donc Mme Rondeau.
Presque une guerre de tranchées.
Ouais, c'est ça. Puis il y avait différents volets. Là. Il y avait un volet linguistique lié à la loi 96 et tout, mais il y avait un volet qui était que la juge avait décidé que les juges allaient siéger moins souvent. Donc, un juge, évidemment, c'est à temps plein la plupart du temps, mais parmi son temps plein, il y a un certain nombre d'heures sur le banc, comme on dit, donc à entendre des parties, entendre des procès. Et là, la juge souhaitait, on sent que ça vient sans doute de la base, même si ça faisait pas l'unanimité, on peut penser que c'est plusieurs juges qui le souhaitaient moins travailler de temps sur le banc pour avoir plus de temps pour rédiger les décisions. Puis là, c'est notamment aussi lié aux chartes, que c'est rendu tellement compliqué le droit, puis il y a tellement de jurisprudence à aller chercher, alors que avant les chartes, c'était un petit peu moins, on plaidait pas le partage des compétences à tous les jours, puis on était plus dans l'application de la loi. Donc, si vous voulez mon opinion, là, à parenthèse, je pense que c'est beaucoup lié aux chartes. Mais peu importe, donc la juge souhaite
Les jugements sont de plus en plus longs aussi.
Exactement. Donc, il y a vraiment souvent, même le moindre petit procès qui peut sembler sur une question de loin des chartes, on peut plaider un argument de charte, puis là, ben ça complexifie la chose et le juge a besoin de temps pour rédiger son jugement, pour lire la jurisprudence. Donc, elle fait cette demande-là. Le ministre, à l'époque, s'y était plutôt opposé. Finalement, bon, il y avait eu une médiation, puis il avait trouvé une espèce de terrain d'entente, mais manifestement, c'était probablement ça le plan B du ministre, et il souhaitait pas, parce que tout ça, évidemment, à l'époque, il y avait déjà Jordan, il y avait déjà des délais très, très serrés qui étaient difficiles à respecter. Donc il y a eu une espèce de compromis qui a été trouvé. Donc, les juges ont coupé leur temps sur le banc, mais moins que ce qu'aurait souhaité à l'origine la juge Rondeau. Mm-hmm. Et là, bon, on se retrouve plusieurs mois plus tard avec des délais très longs, avec des arrêts de procédure. Et là, donc la question est soulevée en étude de crédit. Et là, le ministre donc se fait dire par l'opposition, je pense que c'était Pascal Paradis, que là, ça prend du temps, il y a des délais liés à Jordan, il y a des arrêts de procédure, pour différents motifs, des fois on peut pas aller de l'avant. Et là, effectivement, le ministre répond que c'est notamment le fait des juges. Donc, le fait que les juges siègent moins souvent, donc sont plus longtemps dans leur bureau à rédiger des décisions et moins longtemps vraiment sur le banc. Ça a un effet sur Jordan, donc là, sur des procès qui parviennent difficilement à... qui permettent difficilement à procéder dans le temps requis. Mmh. Alors, c'est pas rien. En même temps, le ministre, c'est sûr qu'il s'est entendu, donc il l'avait accepté en quelque part, mais on comprend que c'est un plan B, puis que les juges, évidemment, invoquaient l'indépendance de la magistrature, donc c'était pas nécessairement évident pour le ministre de complètement refuser à l'époque. Donc c'est ça. Donc, on est sur... vraiment, c'est les suites de Jordan, et c'est ressorti pendant l'étude des crédits. Puis là, évidemment, l'opposition dit que le ministre prend pas ses responsabilités, mais en même temps, je pense qu'on peut pas reprocher au ministre Jolin Barrette de ne pas avoir minimalement tenu son bout. Est-ce qu'il l'a tenu assez? Là, il pourrait avoir débat, mais en tout cas, c'est un des ministres qu'on sait quand même qui est capable de résister à certaines demandes de la magistrature plus que certains de ses prédécesseurs. Mm-hmm. Est-ce que d'autres feraient mieux? Ça, c'est aux électeurs à en juger, là, mais je pense que c'est
et on sait qu'à la Cour du Québec, c'est la guerre de tranchées là, entre les juges, parce qu'il y a même une juge qui poursuit le nouveau juge en chef pour une question d'harcèlement. Qui, en arrière-fond, là, on sait que c'est cette question-là du rapport avec le ministre qui est donc en cause.
Exactement. Fait que c'est pour ça que ça a attiré l'attention pendant l'étude des crédits. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'on voit que c'est pas la même chose dans tous les districts judiciaires. Donc, par exemple, chez nous, district de Saint-François à Sherbrooke, il y en a beaucoup plus proportionnellement d'arrêts de procédure et de non-respect des délais de Jordan. Donc, c'est alors que la norme un peu qui avait été proposée par la juge Rondeau en termes de proportion de temps sur le banc pour les juges, c'est un règlement qui valait pour tout le Québec. Donc, il faudrait pousser un petit peu la réflexion là, pour savoir qu'est-ce qui explique les disparités entre districts. On trouverait peut-être d'autres causes. Alors, je pense que c'est un débat qui se poursuit.
Merci infiniment. Notre chroniqueur constitutionnel de la semaine, à qui j'ai lancé un défi qui n'était pas évident d'analyser ce jugement complexe de l'Ontario. Merci pour tout. Donc, Guillaume Rousseau, qui est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et accessoirement notre chroniqueur constitutionnel de la semaine.